Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités
et on se fait aller Mâche Patate!
Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je suis votre co-animatrice Marie-Hélène Dubé, en compagnie de ma collègue Marie-Andrée Asselin. Salut Marie!
Salut Marie-Hélène! Hey, on est rendu au dernier épisode de la saison 7 et au dernier épisode de 2021. Je sais que je le dis souvent, là, mais j'en reviens pas qu'on soit rendu là. C'est absolument incroyable. Je trouve ça vraiment super. Puis, ben, on conclut aussi une grosse année aux urbainculteurs. Puis là, encore une fois, je sais que je dis ça à chaque année. Mes amis rient de moi parce qu'ils disent que c'est un perpétuel recommencement. Quand je dis « Ah là, cette année, c'est vraiment une grosse année », mais c'est vrai parce que, pour de multiples raisons encore une fois, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, on est comme ça, on aime ça se lancer dans beaucoup trop de projets en même temps, on est des passionnés finalement.
Ah oui, c'est clair. Puis l'un de ces projets, d'ailleurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler un peu, entre autres si vous êtes abonné à notre infolette, mais c'est une formation en ligne sur le jardinage urbain. On vous a préparé quelque chose de pas mal cool, je pense, de très complet, puis qui puise dans nos années d'expertise, et on s'est chargé de vous rendre ça accessible puis le fun. Donc, on vous invite justement à vous abonner à l'infolette des urbainculteurs si ce n'est pas déjà fait, ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'on va faire une annonce officielle en janvier, puis ouvrir les pré-inscriptions. Donc, vous allez pouvoir en savoir plus sur le contenu de la formation dès janvier. En tout cas, nous, on est bien excités que ça se passe.
Tout à fait, tout à fait. Un autre beau projet là, qu'on a réalisé là, en 2021. Mais dans un avenir qui est pas mal plus immédiat, ben, c'est Noël, c'est le temps des fêtes, puis ça vient souvent avec un petit parfum de clémentine. Puis on vous parle justement d'agrumes aujourd'hui parce que si les clémentines qu'on trouve à l'épicerie, ben, ils viennent généralement du Maroc, ben, c'est pas impossible de faire pousser des agrumes au Québec.
Oui, puis il y a une entreprise familiale de Laval qui en fait d'ailleurs sa spécialité. On reçoit aujourd'hui Vicky Vaillancourt, qui est propriétaire de l'entreprise Au Citrus, puis qui est également membre de la relève de la ferme familiale, sa ferme Vaillancourt, dont elle est la 7e génération et la première femme à reprendre les rênes. Donc, allô Vicky, bienvenue à Mâche Patate.
Bonjour à vous deux.
Merci d'être avec nous. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer simplement par nous parler de toi un petit peu puis nous dire ce qui t'a mené à t'intéresser à la culture d'agrumes spécifiquement?
Oui, en fait, c'est une longue histoire quand même qui est vraiment intéressante parce que je suis fille unique et la ferme actuellement, elle est entre les mains de mon père. Et puis, pendant plusieurs années, moi, évidemment, j'ai grandi ici sur la ferme familiale, mais c'était pas une vocation qui me plaisait nécessairement. Quand j'étais jeune et petite, clairement, je ne voulais pas nécessairement reprendre une ferme. C'était, à mes yeux, beaucoup trop difficile, qui demandait énormément de temps et de cœur et de passion, évidemment. Mm-hmm. Et puis, étant enfant unique, à un moment donné, mon papa m'a demandé, ben, « Es-tu certaine que tu ne veux pas rien reprendre? » Si oui, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir commencer à vendre. Puis, on dirait que dans ma tête de conte de fées, même si je reprenais pas la ferme, ben, la ferme allait toujours rester dans notre famille, mais j'avais jamais fait face à la réalité de me dire si je ne la reprends pas, ça va passer à des mains d'inconnus. Et étant la 7e génération, j'avais quand même un petit poids sur les épaules à me poser cette question-là. Et puis, ce que j'ai fait, en fait, moi, j'avais fait des études en relations publiques. Je travaillais là-dedans. Et puis, j'ai décidé de tout lâcher puis de venir essayer de prendre la ferme pour voir si c'était fait pour moi ou non. Au moins, je m'étais dit, si jamais je refuse, je vais l'avoir essayé puis j'aurais pas de regret à avoir dit non. C'est ce que j'ai fait alors. Et puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller à l'école puis étudier. Donc, ce que j'ai fait par la bande en même temps, quand j'ai laissé mon travail pour m'en venir ici à la ferme, j'ai décidé d'aller au HEC en entrepreneuriat pour avoir un petit peu plus de base de connaissances sur bon, la gestion d'une entreprise, la comptabilité, les plans d'affaires, comment parler à son banquier, etc. Et puis, au cours de ce programme-là, on devait créer une entreprise fictive. Mais moi, je n'allais pas là pour en créer une, j'allais là pour en reprendre une. Mm-hmm. Fait que, t'sais, le programme n'a pas accepté mon projet de reprendre. Donc, ils m'ont dit « Non, 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 il faut que tu t'inventes une compagnie. » bon, OK. J'avais absolument pas quoi faire. Puis, c'est à un moment donné, j'étais à la ferme, j'arrosais dans les serres. On fait des plantes de légumes annuels, mais des fleurs aussi annuelles. Puis là, ben, j'en avais quelques aires de citron. Je les arrosais, puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi que je ne vende pas ma compagnie comme si on faisait des citrons? De toute façon, c'est fictif, que ça n'arrivera jamais. C'est ça que je m'étais dit. Puis finalement, après avoir, tu sais, ça a duré 2 ans là, quand même, ce programme-là, qu'on travaillait pendant 2 ans sur la création de notre entreprise, le plan d'affaires, etc. Et puis finalement, au bout de 2 ans, ben j'ai tellement travaillé fort là-dessus que je me suis dit, ben tiens, je vais le partir pour de vrai. De toute façon, au cours de mes études de marché, je réalisais que la demande était vraiment présente puis que les gens tripaient vraiment sur ce projet-là. Fait que je me suis lancée en même temps de la reprise, de la relève de la ferme.
C'est comme tu ça. Tu t'es convaincue toi-même en faisant le projet.
Oui, je me suis comme finalement convaincue moi-même. Puis, tu sais, au cours de ce parcours-là, j'ai également réalisé que c'était vraiment important là, pour peu importe c'est quoi l'entreprise, toute la relève qu'ils reprennent de leurs parents, c'est vraiment important de se trouver comme un projet à l'intérieur de l'entreprise pour que tu aies l'impression que ça soit un peu à ton image, parce que sinon, c'est juste un copier-coller, on dirait. Fait que c'est comme si les agrumes, pour moi, ben, ça avait été quelque chose que j'ai rajouté puis qui était à mon image puis que j'ai pu modeler comme que je voulais, en fait.
Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. C'est drôle. J'allais juste dire, c'est intéressant que tu rajoutes ça parce que tu sais, je me disais, c'est déjà un défi de reprendre la relève d'une entreprise puis d'en créer une supplémentaire en même temps. C'est comme s'ajouter du trouble, entre guillemets, mais je comprends l'intérêt de, comme ça fait quelque chose qui te motive plus aussi.
Ouais, exactement. Tu sais, c'est quelque chose de. Tu sais, quand j'avais, parfois, surtout dans les premières années, on dirait qu'il faut plus faire sa place un petit peu au niveau de l'entreprise. Donc, des fois, ben, mes idées étaient refusées. Des fois, c'était plus difficile pour moi de faire ma place à certains moments. Au moins, au niveau des citrons, ben, je faisais la place que je voulais parce que c'est moi qui la créais. Donc, quand j'étais comme tannée un petit peu de la ferme, ben, j'allais m'enfermer dans la serre de citrons. Puis, ça me permettait d'évacuer, d'être zen, puis de faire mes projets comme que je voulais les faire.
Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Mais en fait, c'est ça le commentaire que je voulais dire tantôt, ça allait dans le sens de Marie-Hélène. C'est juste que c'est drôle qu'au début, tu disais, c'est vraiment trop de penser que je pourrais reprendre la relève d'une ferme. Puis finalement, ça finit que tu fais partie de cette relève-là, puis tu rajoutes un projet par-dessus. Fait que c'est ça, c'est que des fois, quand on vieillit, on change, puis les perspectives se modifient. C'était juste ça, là, mon petit commentaire par-dessus. Mais c'est vraiment intéressant. Puis là, on voulait spécifier que toi, tu ne fais pas nécessairement des oranges navelles ou les citrons meilleurs là, qu'on connaît. Là. Tu te spécialises dans des agrumes, si je peux dire, plus fines, comme le yuzu, la main de Bouddha, le citron caviar. Puis là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce qui a motivé là, ces choix-là?
Oui, exact. En fait, c'est purement économique à dire.
C'est correct.
Au cours de justement de toutes mes études de marché, d'analyse de coûts de revient, j'ai comme constaté que si je faisais des citrons traditionnels ou des clémentines qu'on retrouve dans l'épicerie, c'était très difficile pour moi d'avoir un prix qui faisait aux yeux des consommateurs, qui faisait du sens. Parce que on s'entend qu'au Québec, je dois chauffer les serres pour pouvoir faire les agrumes ici. Donc, mon citron traditionnel qu'à l'épicerie, on retrouve à 59 sous, ben, je devais le vendre comme 6-7 $ le citron traditionnel. Mm-hmm. Donc là, je me suis dit, ouh, il n'y a pas grand monde qui vont, t'sais, qui vont l'acheter, là. Ils vont peut-être acheter un, ça va et tout. Fait qu'on a, j'ai décidé de me lancer plus dans les agrumes qui étaient déjà très difficiles à trouver ici. Fait que c'est vraiment une niche qu'on est allé chercher de produits plus rares, plus fins, plus exotiques, pour pouvoir avoir un levier puis se dire, ben, on peut au moins se permettre de vendre ce prix-là parce que de toute façon, c'est introuvable. Et si j'y avais été avec des oranges qu'on trouve à tous les coins de rue, ben, mon orange, la mienne, je comprends qu'elle est faite au Québec, mais le consommateur n'aurait peut-être pas opté pour 4 fois le prix.
Puis là, Marie-André, elle a juste nommé 3 variétés comme ça, mais je ne sais pas, peux-tu nous dire ce que tu cultives, nous parler un peu plus des variétés, en fait?
On est autour de 8-9 variétés. La plus grande variété qu'on retrouve dans nos serres, c'est le yuzu, qui est un agrume en provenance du Japon. C'est un agrume, souvent, on en entend beaucoup parler ici, dans les épiceries, on les voit en forme de concentré. Vous avez probablement vu ça sur les tablettes, du jus de yuzu, concentré de yuzu, mais on trouve rarement le vrai fruit. Puis il y a eu le choix du président, je pense, c'est cet été qu'il a fait une campagne avec tout plein de produits qu'ils ont fait au Yuzu aussi. Fait que ça commence à être devenu de plus en plus populaire. Mais la petite attrape là-dedans, c'est que au Japon, en fait, c'est le même prix qu'ici, là, c'est très cher. C'est un produit très, très luxueux quand même, le Yuzu. Et puis, ce qu'ils font pour avoir des concentrés de Yuzu ici à prix abordable, ils vont prendre un jus de citron normal et ils vont faire macérer des zestes de yuzu dedans pour que le jus de citron prenne le goût. Mais c'est pas le vrai, vrai, vrai jus de yuzu, car dans un yuzu, il n'y a presque pas de jus. La première fois que j'ai ouvert un yuzu, j'ai été très surprise parce que je me suis dit, on va avoir du bon jus. Puis finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment le zeste du yuzu qui était à utiliser. Fait ça, c'est notre agrume vraiment qu'on retrouve. Je vous dirais qu'on a une centaine d'arbres à peu près, quasiment de yuzu.
C'est le
plus populaire. Et puis, en deuxième de production, on a du calamansi ou calamondin aussi, là, dépendamment de comment on veut le dire. C'est un agrume qui, lui, vient des Philippines. C'est des petites, petites oranges très amères. Il y a beaucoup de gens qui peuvent en cultiver les calamondins à la maison. On en retrouve des fois au Botanics ou dans les centres de jardin. Ils vendent des petits arbres de ces agrumes-là. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'aux Philippines, ils les cueillent verts. Mais moi, ici, la demande, principalement des restaurants, ils me le demandent de les cueillir orange. Donc, aux Philippines, ils les utilisent vraiment comme une petite lime. Puis nous, ici, on les utilise quand ils sont vraiment plus orange avec plus de sucre à l'intérieur. Puis ça, c'est la deuxième variété que j'ai vu.
Ça serait quoi l'utilisation qu'ils en font, eux autres, des calamondins dans les restaurants?
Dans les restaurants, ils l'utilisent beaucoup en pâtisserie parce que justement, ça vient à côté, ça vient apporter un niveau d'amertume qui est vraiment intéressant dans les desserts. Et il y a quelque chose de super aussi qu'on peut faire avec des calamondins, c'est de la bière. Donc, on en a fait déjà une petite collaboration avec une microbrasserie proche d'ici à Terrebonne. Puis on fait une blanche aux agrumes, principalement au calamondin, qui était excellente. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'utilisation parce que l'amertume qu'elle apporte, c'est super intéressant.
Okay. Puis, je m'excuse de revenir, là, c'est ma curiosité culinaire qui parle ici, là, mais moi, je cuisine beaucoup, puis le yuzu, c'est quelque chose que je vois qui revient très, très, très souvent, mais est-ce que le goût, est-ce que ça goûte comme un citron? On dirait que j'arrive pas à identifier vraiment ce que c'est exactement.
En fait, c'est beaucoup plus floral, le yuzu. C'est pas comme acidulé comme un citron traditionnel. Il va l'être, mais avec des beaucoup plus sucrés, puis beaucoup, beaucoup de notes de jasmin, de fleurs, de poivre rose un petit peu. C'est vraiment intéressant. Et ce qui fait aussi qu'en cuisine, c'est beaucoup utilisé, c'est que ça prend très peu de zeste pour parfumer un plat. Puis ça a un petit côté vraiment délicat. Donc, c'est pour ça que c'est souvent utilisé en gastronomie là, de plus en plus, principalement aussi avec le poisson, les sushis, c'est quelque chose de très bon. J'ai des chocolateries même à Montréal qui font des chocolats au yuzu. C'est excellent, ça aussi, ouais. on est assez imaginatif pour utiliser le yuzu un peu partout.
Bon, t'as interrompu dans tes variétés.
Oui, je m'excuse.
Oui, c'est ça.
Tu peux continuer.
Mais c'est correct. Puis en fait, on a d'autres variétés aussi, mais en moins grande quantité. On a du sudashi, qui est le petit frère du yuzu, en fait. C'est comme, ou peut-être plutôt le cousin du yuzu. Il ressemble quand même au yuzu au niveau du goût, mais il est beaucoup plus petit. Et puis le sudashi, lui, on le cueille vert. C'est très, très, très juteux, le sudashi, contrairement au yuzu. Mais il vient chercher quand même des notes sensiblement pareilles au yuzu. Et le sudashi vient également du Japon. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. C'est tellement nouveau qu'il y a beaucoup de restaurants, même de chefs, qui ne savent pas du tout de quoi je parle quand je leur dis « Ah, j'ai du sudashi, en voulez-vous? » Puis ils me disent « C'est quoi ça? » Fait que je leur représente. Mais tu sais, c'est vraiment... c'est quand même peu de gens qui connaissent ça, même au niveau de la gastronomie. Sinon, on a également des lim kaffir ou des kombava. Ça, c'est... imaginez-vous un curry thaï coco, là, la petite citronnelle, là, ben, la lime à goûter. Ça, c'est super intéressant aussi, mais plus pour les bouillons, plus pour les infusions, parce que c'est tellement parfumé qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon ça enlève tout le goût de tout le reste dans l'assiette. J'ai aussi une chocolaterie qui fait du chocolat avec la lime kaffir, puis c'est très bon.
Est-ce que tu commercialises les feuilles aussi? Parce que moi, j'utilise les feuilles habituellement en cuisine.
Effectivement, je les commercialise, mais pas toute l'année durant, en fait. Là, actuellement, je commence à réduire la cueillette des feuilles parce que là, les arbres vont tomber en dormance. Donc, il ne faut pas trop que je les stresse à leur enlever plein de feuilles, sinon au printemps, ils vont devoir en créer vraiment beaucoup. Habituellement, là, la saison de cueillette de feuilles va s'étaler de mars à peu près jusqu'à septembre, octobre. Après ça, je commence à arrêter d'écueillir pour leur laisser une petite chance pour l'hiver. Sinon aussi, dans l'autre variété d'agrumes, qui est probablement la plus extraordinaire qu'on a, c'est la main de Bouddha. La main de Bouddha, on n'a pas beaucoup d'arbres, par contre, on en a juste deux, qui est un agrume très bizarre. Ça ressemble à une main avec plein de longs doigts et qui ne fait absolument aucun jus dans cet agrume-là. C'est juste le zeste qui est utilisé. Et puis cet agrume-là, là, des fois, il peut peser jusqu'à 2-3 kilos, si on est chanceux, là, mais c'est un agrume très, très gros. Et puis, quand on le regarde, on ne sait pas vraiment quoi faire avec ça parce que ça sort tellement de l'extraordinaire, on dirait comme un alien quand on le regarde. Mais ça sent vraiment, vraiment bon. Et puis ça aussi, c'est beaucoup utilisé en cuisine, mais principalement au niveau du dessert. Parce que ça aussi, c'est tellement parfumé que ça en prend très peu ça peut vite gâcher un plat s'il y en a trop dedans, parce que sinon, ça va juste goûter ça. Alors qu'en cuisine, quand ils peuvent le mélanger avec beaucoup de sucre ou d'autres choses, ça se marie très bien. J'ai même un restaurant qui faisait une crème glacée à la main de Bouddha, c'était excellent. Puis ça, on a juste deux arbres, mais on a une très grande demande pour ça. En ce moment, ben, je souhaite avoir plus d'arbres, mais c'est toujours un pari risqué parce qu'un arbre va me prendre environ 5 ans avant de commencer à produire ses fruits. Donc là, même si je m'en achète d'autres, ça veut dire que je n'aurai pas d'autres fruits avant 5 ans au moins. C'est des décisions aussi qu'il faut qu'on prenne, à savoir est-ce que dans 5 ans, il va toujours avoir la même ouverture de ce marché-là ou non. Parce que contrairement au yuzu, la main de Bouddha, il y en a beaucoup qui viennent en provenance de la Californie. Donc, c'est un produit qui est plus facilement trouvable dans les épiceries fines. On peut souvent en trouver. Mais ça reste quand même un agrume vraiment, vraiment chouette. Et finalement aussi, on a le citron caviar ou le finger lime qui, lui, vient de l'Australie. Puis lui, c'est vraiment particulier. C'est quand on le rouvre à l'intérieur, c'est plein de petites billes, comme du caviar, mais au lieu d'être du caviar, c'est des petites billes acidulées, là, comme de pulpe d'agrumes. Donc ça, c'est super chouette à prendre dans les ceviches, dans les tartares, avec des huîtres, c'est super bon. Puis c'est très, très, très parfumé, ça aussi, mais juste assez. T'sais, on gâche pas un plat en mettant dedans. Donc, mais ça, c'est très difficile ici à faire pousser, malheureusement. Pour moi, c'est pas un franc succès. Là. J'ai 3 arbres, mais ça produit pas beaucoup.
OK. Mais justement, tu as comme ouvert la porte à la production. On se demandait, OK, là, tu fais pousser ça en serre, mais c'est ça, comment ça fonctionne à l'intérieur? Est-ce que les plantes sont en pot, en plein sol? Est-ce que tu les sors l'été dehors pour prendre l'air? Ça doit être quand même assez complexe, j'imagine.
Ben, en fait, elles sont toutes en pot. Nos arbres, on les a pas fait en pleine terre. À l'époque, évidemment, quand j'ai commencé le projet il y a 5 ans, c'était un projet avec un très petit budget. Donc, pour moi, l'option la plus simple, plutôt que de creuser dans le sol et de faire des trous, etc., ben, c'était plus facile de juste les mettre en pot. J'aurais pu les mettre dans le sol, c'est une option qu'on a regardée, mais malheureusement, avec les hivers québécois, ma serre, moi, n'est pas isolée au niveau du sol et de la fondation. Donc, il faudrait que je retravaille la serre pour bien isoler le sol, parce que le sol, il gèle quand même. Même si je chauffe la serre, le sol en dessous, il est quand même frais. Donc, je ne veux pas risquer de faire mourir les arbres si, par exemple, à un moment donné, il fait tellement froid et que par malheur, mon chauffage arrête. Mais là, les arbres vont être dans le sol, c'est plus risqué. C'est une décision qu'on a choisi de les laisser en pot. Et aussi, parfois, là, cet été, ça m'est arrivé, j'ai eu une maladie dans les arbres, puis j'ai perdu quelques arbres, et au moins pour restreindre la maladie, j'ai pu sortir tout de suite les arbres, vu qu'ils sont en pot, je les ai juste retirés de la serre pour pas mettre l'infestation partout. Versus que s'il y avait été en terre, on s'entend que c'est un petit peu plus complexe, il faut creuser, sortir l'arbre. T'sais. On a fait ce choix-là vraiment parce que pour nous, c'était l'option la plus facile pour commencer et aussi voir comment ça allait fonctionner. Et puis, à date, finalement, en pot, ça fonctionne très bien. Par contre, je suis d'autres fermes qui font des agrumes en Europe parce que je ne suis pas la seule à le faire dans un climat quand même froid. Là, il y a un monsieur qui fait ça en Suisse. Et évidemment, la Suisse, ils n'ont pas les conditions climatiques pareilles aux nôtres, mais lui, il peut les mettre en terre parce qu'en Suisse, le plus froid qu'il peut faire, où est-ce qu'il est situé, lui, c'est comme moins 5, moins 6, ça se fait bien. Là. Mais ouais. Nous, à moins 40, des fois, au mois de janvier, ça serait plus difficile.
Ouais.
Et puis, effectivement, donc c'est en serre et puis on chauffe la serre en hiver seulement à 12 degrés, pas plus, parce que les arbres sont en dormance et qui n'ont pas besoin d'un niveau de chaleur très, très, très élevé parce que je ne fais pas justement les oranges de la Floride et les citrons traditionnels. En Asie, la plupart de mes agrumes viennent de l'Asie, il fait froid au Japon là, quand même, au mois de décembre, janvier, il y a de la neige parfois, il fait frais, donc c'est des agrumes qui sont habitués quand même à être au frais. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ces variétés-là pour se permettre de pouvoir baisser la température en hiver.
J'ai comme un million de questions pour ça que j'essaie de ne pas oublier. Mais le fait que la culture en pot, en fait, je me demande d'abord, tu sais, je ne sais pas la longévité de tes arbres jusqu'à quand ils vont être productifs, mais est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir trop limité qu'ils soient en pot, en fait?
Je me posais la même question.
Oui, c'est ça. Puis c'est une question que je n'ai pas de réponse parce que ça fait juste 5 ans. Mais en fait, j'ai des arbres qui ont 15 ans. Les arbres que mon père avait, là, les ceux que j'ai arrosés puis qui m'ont donné une idée de génie de faire cette compagnie-là, eux, ils sont rendus à 15 ans puis ils sont très, très, très productifs. C'est mes top production que j'ai avec ces arbres-là. Par contre, est-ce que dans 10 ans, ils vont donc avoir 25 ans? Est-ce qu'à 25 ans, ils vont encore être productifs puisqu'ils sont en pot? C'est une question que je vais devoir l'expérimenter pour pouvoir y répondre. C'est sûr que je rajoute peut-être à tous les 2-3 ans, je vais leur rajouter je leur mets de la nouvelle terre, je leur mets des nouveaux amendements, je m'arrange pour pas qu'ils restent toujours dans la même terre. Mm-hmm. Mais effectivement, les arbres là, sont rendus énormes. Là, je peux pas les sortir de leur peau facilement comme ça. On est en pleine construction de nouvelles serres, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc aujourd'hui, on est en pleine construction de serres. C'est la course contre la montre avec la petite neige qui tombe en ce moment. On veut tout dépêcher de tout faire en même temps.
Ben, j'allais justement te poser la question de si c'était une serre existante déjà à votre ferme que vous avez utilisée ou si tu as construit une nouvelle serre pour tes arbres à la base.
Au début, c'était une serre existante. Donc, j'ai utilisé une serre que la ferme avait déjà. Et puis, à un moment donné, la serre est devenue très, 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 très pleine. Et puis, on a construit une serre juste pour les citrons.
OK. Juste pour revenir, là, un dernier petit détail sur les pots. Quand tu dis que tu remets du terreau, du compost, des amendements et tout, est-ce que tu changes carrément les arbres de pots ou tu fais juste en ajouter dans le pot?
Je fais juste en ajouter dans le pot parce que les arbres sont tellement
c'est ça, OK.
maintenant que j'ai bouche. Ça prendrait quand même toute une technique pour être capable de changer le pot. J'ai vu une sorte de pot au Portugal, c'était super intelligent, j'ai jamais été capable d'en retrouver ici, ni d'en commander sur Internet. C'était comme un pot qu'on faisait juste râper alentour, puis on avait des clips pour pouvoir l'enlever puis le défaire. Fait qu'au moins la motte, tu la défaisais pas, tu faisais juste déclipser ton pot, puis tu y en mettais un plus gros, puis après ça tu pouvais rajouter de la terre, donc ça permettait de grossir de plus en plus ton pot, mais là moi je peux plus les enlever de là, c'est surtout ceux qui ont 15 ans là-dedans et...
Oui, mais là, spontanément, c'est sûr que moi, je pense à... Je ne sais pas si tu as expérimenté avec les pots en géotextile, là. Nous, c'est ça qu'on utilise le plus.
Oui, ben, c'est ce que j'ai. J'ai des smart pots, en fait. Okay. Mais mes premiers arbres, il y a 15 ans, les smart pots n'existaient pas vraiment. C'est vraiment des pots en plastique, en fait. Donc, c'est pas évident à sortir ça de là.
Ah, c'est ça, parce que je me disais, au pire, le géotextile, tu peux comme le déchirer pour l'enlever ou je sais pas trop.
Ah, mais ça
peut-être
doit être...
Jour, mais en fait, c'est surtout de le remettre après dans un nouveau pot.
C'est ça.
C'est pas tant de l'enlever, c'est de lever l'arbre et de le remettre dans un nouveau pot qui est complet.
Est-ce que tu as un système d'irrigation dans la serre?
Non, en fait, c'est moi qui arrose tout à la main. C'est un projet que je veux me doter, un système d'irrigation. Par contre, la problématique, c'est que chaque variété d'arbre consomme un niveau d'eau différent. Par okay. exemple, les yuzu, ça prend quand même de l'eau, alors que le citron caviar, ça prend presque pas d'eau. Il faudrait que je refasse une petite configuration différente avec un système d'irrigation qui aurait des valves que je pourrais mm-hmm. ouvrir et fermer en fonction de quelle variété d'arbre que je veux arroser. Ça mm-hmm. se fait très bien, c'est juste faut que je prenne le temps de le faire. Et puis, ayant une ferme aussi l'été, j'ai de la misère à trouver assez de temps pour être capable de tout faire ça, mais on va finir par y arriver.
Je me demandais, ben, je ne sais pas si Marie-Hélène, tu avais l'air d'être lancée pour une question.
Ça s'en va dans une autre direction, fait que tu peux y aller, vas-y.
OK, ben en fait, là, moi, je me demandais simplement comment tu avais fait pour acquérir le savoir en lien avec la culture des agrumes.
Oui, en fait, ça aussi, c'était au début quelque chose d'assez complexe parce qu'au Québec, il n'y avait pas beaucoup de documentation à ce niveau-là. On en avait un peu de façon innée parce qu'on est des agriculteurs, donc on ne veut pas s'occuper de quelque chose de vert, on est quand même habitué. Mais au niveau de tout ce qui était plus maladies, insectes, carences, etc., ça a été un petit peu plus complexe. Donc, je suis allée voir un monsieur qui a une production d'agrumes, lui, au Portugal. J'étais passée 2 semaines chez lui, puis il m'a comme expliqué vraiment beaucoup de choses sur la production d'agrumes, sur les climats, sur la greffe aussi. Donc, maintenant, je fais souvent des greffes de mes agrumes pour okay. permettre la multiplication. Donc, il m'a aidé pas mal à ce niveau-là. Et suite à mon passage chez lui au Portugal, j'ai comme réalisé que les agrumes, c'est pas mal comme les pommiers ou les poiriers, les pruniers. Ça reste un arbre fruitier au niveau de la taille puis des carences dans le feuillage, etc. C'est sensiblement pareil. Souvent, des fois, si j'ai des questions, ben maintenant, je peux aller voir mon agronome, un agronome spécialisé dans la culture de fruits en arbre, puis il va être quand même capable de m'aider un petit peu. Des fois, je peux aller vers cette avenue-là.
Mm-hmm. Puis, ben, j'ai cru comprendre que tu traites pas tes agrumes, si je me trompe pas, tu es avec des produits de synthèse, je pense.
Ouais, j'essaie le plus possible. Par contre, tu sais, par exemple, cet été, avec la maladie que j'ai eue, puis que en l'espace de 2 semaines, on a perdu comme 6 arbres, du jour au lendemain, comme en 2-3 jours, là, ils devenaient morts complètement. Fait que je me disais, hey, mon Dieu, faut pas que ça commence à attaquer toute ma serre au complet, sinon ça sera pas long, qu'il y aura plus rien. Donc, oui, effectivement, il y a des fois que j'ai dû utiliser des produits un petit peu plus forts pour me permettre d'arrêter la maladie. C'est pour ça qu'au début, je voulais aller me chercher la certification bio et puis finalement, j'ai changé d'avis parce que sinon, ça me bloquait trop pour utiliser certains types de produits que je veux pas les utiliser, mais si mm-hmm. je vois toutes mes arbres en train de mourir, j'ai pas le choix.
Ouais, ouais.
Ben non, c'est compréhensible.
La plupart du temps, ce que je fais, j'utilise beaucoup du jus d'algues pour leur donner beaucoup d'engrais. J'utilise aussi beaucoup les prédateurs naturels. J'ai okay. mis des fois, c'est tous des mots un peu spéciaux. Là. Il y a des types de bestioles qui vont manger d'autres insectes dans la serre. Mm-hmm. Ça, tu peux acheter ça. Je libère des petits sachets d'insectes. Ils vont aller attaquer les autres insectes. Tu sais, j'essaie beaucoup d'y aller dans cette avenue-là. La plupart du temps. Sinon, j'ai aussi de la poudre d'os. J'utilise beaucoup de choses comme de ce côté-là. La plupart du temps, j'essaie, du moins.
Mmh. Puis là, tu as parlé du mot taille. Est-ce que tu dois tailler les arbres à chaque année?
Oui, exact. Normalement, okay. on est censé le faire à chaque année. Au début, quand j'étais au Portugal, un monsieur, il me disait de le faire à chaque année. Puis la façon qu'il m'a montré pour tailler, c'est une taille très sévère. T'sais, on coupait quand même beaucoup de branches. Puis moi, quand je suis arrivée ici, puis j'ai recommencé à le faire ici dans mes arbres, je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop intense pour la grosseur de mes arbres parce qu'ils étaient encore bébés, tandis que lui, ses arbres, ils étaient vraiment matures. T'sais. Fait que moi, pour des arbres bébés, je me disais, ouais, il me semble que c'est pas top. Donc, j'ai fait le test. Pendant 2 ans, j'ai pas absolument rien taillé. Puis là, tu vois, cette année, au printemps, parce qu'on taille toujours au printemps, okay. au printemps, je vais retailler parce que là, ça commence à être un petit peu un zoo là, de branches un peu partout. Mais j'aimerais ça là, être capable de le faire aux 2 ans. Tu sais, leur laisser une année de repos, recommencer une autre taille. Une année de repos, recommencer une autre taille.
OK. Ben aussi, tu sais, en tout cas, j'imagine qu'au Portugal, le climat n'est pas tout à fait le même. Fait que peut-être que les arbres ne poussent pas de la même manière non plus.
Oui, c'est ça.
C'est ça, le 2 ans.
Souvent, la première taille, ce qu'elle sert à déterminer un peu la direction des branches maîtresses. Parce que moi, ce que j'avais pas fait, c'est que je laissais aller tout le monde, toutes les branches qui poussaient, allez-y. Mais ça faisait en sorte que l'arbre n'a comme pas de branches maîtresses. Puis ça, ça peut venir parfois affaiblir ton arbre. Ça prend quand même des leaders de branches pour que d'autres branches viennent pousser alentour. Puis c'est ces petites branches-là qui vont donner les fleurs après. Mais ça prend quand même une fondation solide de l'arbre. Puis c'est ce que je me suis rendu compte. T'sais, au début, je ne les taillais pas vraiment, mais ça faisait en sorte que c'était beaucoup plus, plus pêle-mêle dans les branches qui poussaient. Il n'y avait comme pas de direction où aller. Il y allait un peu n'importe où. Puis maintenant, depuis que j'ai commencé un petit peu à leur montrer la vue, ben, ils savent où aller.
Ils c'est savent bon. Où aller, c'est bien dit.
Ah, moi, j'ai une dernière question sur les arbres. On va en venir aux fruits, à la distribution éventuellement, mais hein, on est dans le milieu de la culture, fait qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Mais je me demandais simplement, comme au niveau de acquérir les arbres, en fait, au départ, là, est-ce que tu es allé les chercher? Comment ça se passe? Comment tu as trouvé les arbres qu'il te fallait?
Ben en fait, les premiers arbres, donc nos plus vieux, nos doyens qui ont 15 ans, c'est mon père qui les avait avec un de ses amis, qui lui les avait fait venir d'une pépinière à Vancouver.
Wow.
Donc, quand j'ai repris un peu la production d'agrumes, cette pépinière-là existait encore. Fait que on a acheté un gros lot en même temps. On a acheté comme 60 arbres du même coup. Ils sont arrivés livrés ici. Et quelques années après, le monsieur qui avait cette pépinière-là a fermé. Donc là, on se retrouvait avec plus vraiment de production, plus vraiment d'endroits où acheter nos arbres. Il y en a quelques-uns au Québec qui en vendent, des arbres d'agrumes, mais ils sont souvent en rupture de stock. J'ai déjà aussi essayé d'en acheter, puis la qualité des arbres est moyenne. T'sais, la plus belle qualité que j'ai trouvée à date, c'est vraiment ceux de la pépinière à Vancouver. Donc, quand j'ai vu qu'il n'existait plus, c'est là qu'on a commencé à greffer nos arbres. On achète des porte-greffes, puis là, moi, je reprends des branches de mes anciens arbres, puis je vais juste greffer dessus. Okay. C'est comme ça maintenant que je suis capable de refaire les arbres. Et ben c'est ça. C'est pas mal comme ça, je vous dirais, que j'ai commencé à avoir autant d'arbres. Parfois aussi, il y a peut-être deux, trois ans, je vois, il y a eu une belle surprise qui m'est apparue dans mes courriels. Il y avait un monsieur qui voulait se départir de sa collection d'agrumes que ses grands-parents y avaient acheté. Puis il y avait pas loin de comme cinquantaine d'arbres d'agrumes. Fait qu'on est allé les chercher. Ils n'étaient pas super, en top shape nécessairement, mais on les a ramenés sur le droit chemin.
Wow, mais fait que là, au total, ça te fait combien d'arbres?
Mais oui, c'est ça.
Au total, on est comme à autour de 130 arbres, à peu près.
Okay. Quand même. Puis là, tu as mentionné le fait que tu greffais tes propres arbres. Fait que là, est-ce que ça pourrait éventuellement ouvrir la porte à toi en revendre à des particuliers?
Oui, ça pourrait. C'est une question que je me fais beaucoup demander sur les médias sociaux. Est-ce qu'on peut vous acheter des arbres? Mais ce n'est pas une avenue dans laquelle je veux me lancer actuellement parce que j'ai fait ce choix-là. En fait, c'est plus un choix stratégique parce que que je suis pratiquement une des seules à avoir autant d'arbres de yuzu au Québec. Je veux comme pas commencer à ce que ça devienne tellement courant que plein de monde peut en avoir chez eux parce que sinon, ça va un peu venir diluer mon marché pour moi.
Tout à fait.
Je suis un peu égoïste, mais ouais, c'est ça.
Non, c'est bien beau.
C'est bien correct.
C'est comme si j'ai la recette, j'ai comme une recette miracle entre les mains,
c'est
mais
ça.
Je veux comme la garder un petit peu encore.
C'est bien, c'est bien. Oh, moi, en tout cas, là, depuis que tu en as parlé tantôt, je rêverais de vraiment goûter au vrai yuzu. Là. En tout cas, peut-être qu'un jour, ça va arriver.
Oui, puis ce qui est intéressant avec le yuzu, c'est que beaucoup de gens le savent, mais ça a juste une seule production par année. C'est comme les pommes. Tu sais, les pommes, ça produit juste à l'automne. Mais c'est la même chose. Le yuzu, il produit juste à l'automne et puis c'est fini. La saison de la récolte est déjà terminée. C'était en octobre. Donc là, j'ai plus de yuzu.
Est-ce que c'est pas mal la même chose pour les autres agrumes que tu cultives ou il y en a qui cultivent qui produisent un peu plus à l'année?
J'en ai qui cultivent un petit peu plus à l'année. C'est le cas justement des calamondins. Eux, ils vont faire jusqu'à 3-4 récoltes par année, dépendamment du genre d'année que j'ai. Là. Mais habituellement, c'est entre 3-4. La main de Bouddha, c'est une fois, mais pas une fois par 12 mois, c'est à peu près une fois par 8 mois, je vous dirais. Le cycle est un petit peu moins long. Le citron caviar, ben lui, il est tellement capricieux que c'est quand il décide de sortir.
Puis justement, tu l'as abordé un petit peu avec les restaurants, mais on se demandait comment tu faisais ta distribution.
C'est principalement dans le monde de la restauration que je le fais. Restauration, bar, puis les spiritueux aussi. Donc, il y en a quelques-uns qui m'ont acheté pour faire du gin, pour faire de la vodka, pour faire de la bière. J'en vends aussi un petit peu aux particuliers, mais c'est un marché plus difficile pour moi parce que la restauration va me prendre des quand même grandes quantités. Donc, c'est plus facile pour moi de cueillir, de savoir que j'ai déjà 10 kilos de vendu. Je cueille 10 kilos, je vais le porter au restaurant, c'est vendu. Alors qu'aux particuliers, quand ils veulent m'en acheter juste 2 citrons, 3 citrons, c'est plus compliqué parce que moi, j'aime ça les cueillir au fur et à mesure. Je les cueille pas toutes une fois, puis après ça, je venais les chercher. Là. J'aime ça que ce soit le plus frais possible. C'est vraiment mon canot de distribution principal, c'est tout ce qui est restauration. Puis même pendant la pandémie, moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais faire quoi avec toutes mes citrons si les restaurants sont fermés? Puis finalement, la plupart des restaurateurs, ils ont quand même tous acheté, puis ils ont travaillé, ils ont transformé en jus, ils ont déshydraté parce qu'ils savent que ça arrive juste une fois par année. Donc, eux se sont dit, quand ça va reprendre, on ne veut pas passer notre chance d'en avoir pris. Donc, la plupart m'ont tout racheté quand même, les agrumes.
Wow! C'est ça, je me demandais un peu au niveau de la conservation, parce que, tu sais, vu que c'est comme une production où tu n'as pas un produit que tu es capable de vendre toute l'année, tu sais, j'imagine justement au niveau de tes revenus, puis tout ça, c'est un peu... Ça fait comme un pic dans ton année, là. Fait que est-ce que
tu
es capable de comme étendre ça un peu dans le temps? Ou...
Ben, plus ou moins, en fait, c'est pour ça aussi que c'est pas un projet qui est nécessairement viable pour vivre uniquement de la production d'agrumes. En tout cas, du moins de ceux qu'on s'est dotés, là, ça serait plus complexe parce qu'en été, j'ai pas d'agrumes à vendre. C'est pour ça aussi qu'on a une ferme, puis moi, ma source de revenus principale provient de la ferme. Les agrumes, c'est une passion, c'est un projet qu'on a décidé de se lancer, que moi, comme je l'ai mentionné en début d'épisode, c'était la couleur que je voulais rajouter à la reprise de la ferme, mais reste que mon métier principal est tout de même la ferme. Mais ce qui était une surprise un petit peu pour moi, c'était la popularité de ce projet-là a fait découvrir beaucoup la ferme familiale aussi. Ça a été un projet conjoint qui était quand même le fun à développer, surtout au niveau marketing. Ça a été chouette d'avoir un effet de levier avec les citrons pour faire découvrir par la bande notre ferme familiale aussi.
Wow, c'est cool. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout pensé. C'est vraiment super. Mais là, je me demandais aussi, tu sais, au niveau de la... Tu sais, quand tu es arrivé avec ton produit, est-ce qu'il y avait déjà une demande auprès des restaurateurs ou est-ce que tu as eu à faire beaucoup de démarchage auprès de ta clientèle?
Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas un domaine que je connaissais énormément beaucoup de gens. Je connaissais quelques personnes assez bien placées dans certains restaurants. Puis quand je leur ai apporté le vrai produit entre les mains, ils l'ont testé, ils ont trouvé ça fantastique. La magie des médias sociaux, ils ont commencé à se taguer avec nos produits. Puis après ça, c'est comme ça. C'est vraiment juste comme ça que c'est parti. J'ai pas eu besoin d'aller cogner aux portes de 25 restaurants. Là. J'ai juste fait comme 2-3 restaurants. Puis après ça, toutes les autres se sont rajoutées en m'écrivant. Puis maintenant, c'est dommage, mais parfois, je dois même refuser certains restaurants parce que j'ai pas assez de produits pour en vendre à tout le monde.
Tant mieux pour toi, c'est comme le meilleur travail puis tout ça. Une autre avenue, tu sais, c'est pas ta spécialité, je veux pas qu'on creuse beaucoup là-dessus, mais tu l'as mentionné tantôt en parlant des calamondins, qu'il y a des gens qui cultivent ça à la maison aussi. Puis on se dit, dans les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être soit qui cultivent déjà des petits agrumes à la maison ou qui aimeraient essayer. Est-ce que tu as comme des conseils à leur donner ou comme quelque chose que tu dirais qui est peut-être plus facile à faire à la maison?
Bien, c'est sûr qu'il y a certaines variétés qui sont plus faciles à faire à la maison. Justement, les calamondins en fait partie. S'il y en a qui sont capables de se mettre la main sous des limes kaffir aussi, c'est un agrume, un arbre qui est très facile à faire produire puis à faire fleurir. Il y a aussi le citron meilleur qu'on trouve souvent, mais c'est une variété qui est super à faire pousser. Puis tu sais, pour vrai, les citrons sont très bons, là, des citrons meilleurs, là, sont super juteux, puis c'est vraiment le fun de pouvoir le faire pousser à la maison. Le seul conseil que j'ai à donner, puis que beaucoup de gens, l'erreur qu'ils font, c'est en hiver, ils arrosent beaucoup les agrumes. Mais en hiver, il ne faut presque pas arroser les citrons parce qu'en hiver, leur système est ralenti de beaucoup, puis la luminosité aussi. Donc, ça fait en sorte que l'arbre, il boit beaucoup moins d'eau. Puis, ce que beaucoup de gens font, ben, c'est qu'ils noient l'arbre sans le vouloir. Là. Mais ils vont avoir, les racines vont devenir jaunes. Ils vont s'affaiblir puis ils vont mourir. T'sais. Il y en a beaucoup qui m'écrivent puis ils me disent « Ah, mon citronnier a tout perdu ses feuilles, ils sont toutes devenues jaunes puis ils ont toutes tombé. » Ben, souvent, ça, c'est trop d'eau. Puis malheureusement, c'est très difficile de réchapper un arbre de trop d'eau. C'est plus facile de le faire assécher quitte à y remettre de l'eau puis le faire baigner, le faire lui donner des petits bains, mais un arbre qui est noyé, c'est vraiment difficile à ramener.
Mais au niveau de la lumière ou de la chaleur, il ne faut pas nécessairement, mettons, une véranda ou une serre pour en faire chez soi?
Non, pas nécessairement. C'est sûr que ça prend, par contre, beaucoup de luminosité. Pas nécessairement de soleil directement, mais ça prend un endroit très lumineux. Puis ceux qui ont, on peut en vendre, on peut en acheter sur Internet, là, des petites lampes vraiment pour les plantes d'intérieur. Ben, je vous le suggère quand même pour les agrumes. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. Puis d'autres choses aussi, il y a beaucoup de gens, j'ai vu ça beaucoup, du monde qui mettent les arbres près des calorifères en se disant « Ah, ça va les chauffer
ouais. »,
mais c'est le contraire, ça les assèche beaucoup parce que c'est pas un calorifère, c'est pas une source de chaleur humide, c'est une source de chaleur très, très sec, puis ça va quasiment les brûler même. C'est pas une très bonne idée de mettre ça nécessairement au-dessus du calorifère ou juste à côté du calorifère parce que c'est de la chaleur qui est pas constante, de un. Puis ça, c'est trop chaud. Ça prend pas. T'sais, j'ai des gens qui font des petites pièces, par exemple, un bureau avec une très grande fenêtre, mais ils vont baisser la température du bureau, justement, puis ils vont la laisser juste à comme 17 degrés. Puis honnêtement, la température constante à 17 degrés, ça fait en masse d'affaires.
Là, quand tu parles de 17 degrés toute l'année?
Ben, c'est sûr que l'été, vous pouvez okay, sortir dehors, puis ils aiment ça, mais je parle principalement pour l'hiver.
Ouais,
habituellement,
ouais.
Les gens, l'été, n'ont pas de la misère avec leur citronnier. C'est beaucoup l'hiver que je reçois plein de messages pour me dire « SOS, mon citronnier est en train de mourir. Qu'est-ce que je peux faire? » Ouais, c'est ça, je leur réponds. Puis quelque chose de très important aussi, à la maison, quand vous rentrez vos arbres, souvent les gens vont les sortir l'été. Les arbres, ils adorent être en été dehors. Mais assurez-vous qu'il n'y a pas d'insectes puis de petites bébites quand vous les rentrez dans la maison à l'hiver, parce que souvent, on ne les voit pas. Là. Des fois, c'est microscopique. Mm-hmm. Mais après ça, ça peut vite faire un ravage dans la maison, parce que là, eux autres, ils vont aimer ça être au chaud, puis ils vont continuer de se reproduire, puis d'aller partout dans les racines, puis on ne le verra pas. Puis à un moment donné, notre arbre, ben, il tombe malade. Mm-hmm. C'est comme ça que ça.
Un grand classique. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite des choses?
En fait, j'ai comme projet futur, là, c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Donc, vous pourrez me souhaiter du temps pour pouvoir le faire, mais j'aimerais beaucoup ouvrir les serres pour faire des visites guidées. Pour okay. montrer aux gens, de quoi ça a l'air, une serre avec 130 citronniers dedans. Deux aussi pour donner des petits conseils justement pour ceux qui aiment ça cultiver puis qui sont des passionnés des agrumes ou des plantes. J'aimerais ça leur montrer vraiment chacune des variétés, leur faire découvrir les textures, les saveurs, les senteurs de chaque agrume. Donc, c'est un projet sur lequel j'aimerais travailler, mais actuellement, avec la ferme, on est en gros projet aussi d'autres d'expansion. Donc, parfois, malheureusement, je dois laisser de côté mes citronniers pour me concentrer à d'autres projets, mais vous pouvez sauter du temps parce que c'est quelque chose que j'aimerais partager avec les gens, la passion des agrumes, la découverte de ça. Je pense que j'ai un beau projet entre les mains, puis c'est dommage que je ne puisse pas en faire profiter au moins les yeux puis le nez à plusieurs personnes.
Tout à fait.
Puis justement, à défaut de peut-être pouvoir s'en acheter directement, est-ce qu'il y a comme des produits transformés maintenant qui utilisent tes agrumes puis qu'on peut trouver, qu'on peut acheter?
Il y en a plusieurs, en fait. J'ai beaucoup de chocolateries, je pense à deux chocolateries, entre autres. Il y en a une à Montréal qui s'appelle État de choc, qui font un chocolat spécial pour l'hiver, justement pour la période des fêtes. Un chocolat au yuzu qui est vraiment très, très bon. Et les filles qui l'ont travaillé, ça a pris du temps avant qu'ils trouvent la recette miracle, mais maintenant, il est excellent, leur chocolat. Puis c'est une très belle chocolaterie. Vous avez des petits cadeaux du temps des fêtes, vous pouvez aller les voir. Il y a une autre chocolaterie aussi sur la rive nord à Oka, chocolaterie Mathilde Faze, qui est très, très bon aussi. Elle fait de l'excellent chocolat. Elle, avec la lime café, donc au Kombava, c'est super. Mm-hmm. Il y a un gin aussi sans alcool, le HP Juniper, qui font un gin sans alcool au yuzu. Les yuzu viennent ici. Et c'est super cool aussi à utiliser. Puis, il y a pas mal ça, je vous dirais, au niveau de la... Ben, il y avait une vodka l'année passée, mais là, elle est rendue sold out, donc on ne peut plus la trouver, malheureusement. Ah,
victime de son succès.
Mais oui, on n'avait pas fait beaucoup de bouteilles, donc ça s'est terminé l'année passée. Et puis sinon, bien évidemment, il y a plusieurs restaurants qui les utilisent, les produits, donc des fois, c'est juste c'est des restaurants plus haut de gamme. On parle du Mousseau, du Montréal Plaza, du Reine-Élisabeth... Fairmont, Montebello, tu sais, c'est pas des restaurants nécessairement qu'on peut décider « Ah, tiens, ce soir, je vais aller manger là, là. » Il faut quand même prendre le temps de réserver puis d'aller voir, mais c'est des restaurants qui utilisent beaucoup les produits locaux, dont nos agrumes.
Est-ce qu'il y en a à Québec pour nous?
Oui, c'est ça!
À Québec, oui, en fait, il y en a deux, là, à Québec. Il y a le nouveau restaurant Le Clan, qui s'est ouvert.
Oui.
Stéphane Modan. Exact, mm-hmm. Il m'en a acheté cette année. Et il y en a un nouveau qui a ouvert, si je me souviens bien, dans le Capitole qui s'appelle BO d'Asie.
Oui, OK, oui, dans le Diamant.
Exactement, voilà. Puis eux, ils m'en ont acheté aussi beaucoup pour leur ouverture, donc je sais qu'ils en ont sous la main encore, si je me souviens bien.
OK, on va garder ça en tête, assurément. Puis aussi, je t'écoutais parler, puis je réalise que... On ne t'a même pas demandé exactement la ferme Vaillancourt, justement, qu'est-ce que c'était?
En fait, c'est une ferme maraîchère. Okay. Donc, on a des fruits et des légumes. On n'a pas de production animale sur la ferme. On a notre commerce de fruits et légumes qui est juste de l'autre côté des champs, dans le fond. Donc, tous les produits qu'on vend à la ferme sont tous des produits qu'on cultive ici. Si ce n'est pas des produits qu'on cultive ici sur notre terre, c'est des produits de nos voisins ou du moins de la région environnante. Donc, c'est vraiment un petit marché fermier qui est ouvert l'été uniquement. Donc, on ferme à l'Halloween. Donc, on fait toute la saison des courges aussi. C'est super chouette. Puis, on fait beaucoup, beaucoup d'auto-cueillettes. Donc, les gens peuvent venir chercher leurs fraises, leurs framboises. On fait même l'auto-cueillette de piment fort, piment doux, aubergine, tomate. On est très axé sur l'auto-cueillette pour faire découvrir aux gens justement plusieurs variétés de légumes. Puis, un petit peu aussi de rappeler aux gens que les produits poussent dans la terre puis pas nécessairement dans une petite barquette de plastique pour les tomates. Donc, on essaie du moins de faire ça. Puis, on fait des petites visites guidées aussi de la ferme, des tours en tracteur. C'est vraiment une ferme très maraîchère.
Ben là, on dirait que je comprends mieux le lien aussi avec ton intérêt possible d'ouvrir les serres. C'est comme un peu une continuité de ce que vous faites déjà à la ferme Vaillancourt, d'une certaine manière.
Puis dans nos serres, là, on fait principalement des fleurs annuelles. On produit effectivement tous nos légumes en champ. On va les produire en serre avant. Là, fait que les bébés plants, ils viennent tous de nos serres en premier. Mm-hmm. Là, on est en train de faire notre nouveau complexe de serres. Et dans le nouveau complexe, sans vraiment s'en rendre compte, on a fait un allée centrale qui est toute en une grande dalle de béton, mais qui est c'est tellement beau avec toutes les serres par-dessus qu'on s'est dit qu'on devrait faire parfois peut-être des événements gastronomiques dans les serres l'hiver. Ça pourrait être vraiment chouette. On sait que le monde l'hiver cherche beaucoup la chaleur puis le soleil. Donc, on s'est dit peut-être que ça pourrait être le fun de faire ça peut-être une ou deux fois par année, là, des événements gastronomiques dans les serres. Bon, c'est un projet qu'on va peut-être regarder aussi.
Les idées ne manquent pas. C'est cool.
Ben merci beaucoup, Vicky. C'était super intéressant, merci. Vraiment.
Vraiment.
Ben, merci à vous deux d'avoir pris le temps de me poser ces questions-là.
Ben non, mais c'est à toi d'avoir pris le temps. On croit comprendre que tu es quand même occupée.
Oui, un petit peu, mais ça va.
Cool. Un peu pour faire suite, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui cultivent ou qui ont déjà cultivé des agrumes à la maison. Puis si vous avez une expérience à partager, on vous encourage à venir le partager sous la publication de cet épisode sur Facebook puis sur Instagram parce qu'on est très, très curieux de savoir ce que vous faites à la maison. Puis avant de vous laisser, on vous rappelle une dernière fois de vous abonner à l'infolette des urbainculteurs parce que ce sera dans la prochaine infolette qu'on fera l'annonce officielle de notre formation, puis vous ne voulez vraiment pas manquer ça.
Puis aussi, comme chaque année, de la mi-décembre à la mi-janvier environ, notre équipe est en pause hivernale. Ça veut dire que notre boutique en ligne est aussi en pause. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'expédition là, des commandes jusqu'à notre retour en janvier. Vous pouvez quand même passer des commandes, mais elle ne sera pas expédiée tout de suite. Puis ça veut aussi dire que Mâche Patate fait une petite pause, un peu plus longue cette année que les autres. On va vous revenir en fait au début du mois de février. On vous a préparé d'avance plein de beaux épisodes, donc assurez-vous d'être abonné à Mâche Patate sur votre plateforme d'écoute pour ne pas manquer notre retour.
Ouais, puis d'ici là, ben, on vous souhaite de passer un beau temps des fêtes, un bon congé pour celles et ceux qui ont la chance de souffler un peu, puis un bon début d'année 2022. Comme on dit toujours, là, merci d'avoir été avec nous tout au long de l'année, puis on espère vous retrouver au poste en février prochain. Donc, à bientôt!
Bye bye!
Ciao, ciao!